1 Corinthiens chapitre 9.
On va prier avant pour demander la direction du Seigneur. Et si quelqu'un ou quelqu'une a aussi un sujet de prière brûlant, urgent, qu'il ou elle voudrait remettre, qu'on puisse aussi prier pour ça, n'hésitez pas. Bon, ça vient d'aller. Il y a toujours des sujets de prière,
bien sûr. Oui, bien sûr.
Donc, alors est-ce que je peux demander à un frère ou une sœur de prier pour que le Seigneur nous dirige dans l'étude de sa parole ce soir.
Merveilleux Seigneur Jésus, merci pour ce rendez-vous que tu nous as fixé ce soir tous ensemble, tes fils et tes filles autour de la parole. Merci merveilleux Saint-Esprit de diriger et de nous enseigner. Merci Père Céleste, par le nom de Jésus, pour toutes les bénédictions que tu as en réserve pour chacun de nous en particulier ce soir. Au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Amen. Alors, c'est quand même un assez long chapitre. On va commencer par lire du verset 1 jusqu'au verset 13. On va d'abord traiter cette section et puis dans une deuxième partie des versets suivants. Donc là encore, si quelqu'un peut, quelqu'un ou quelqu'une veut lire à haute et intelligible voix les versets 1 à 13.
Ne suis-je pas libre ? Ne suis-je pas apôtre ? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur ? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur ? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire ? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres, et les frères du Seigneur, et Céphas ? Ou bien est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler ? Qui jamais est engagé dans une armée à ses propres frais ? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit ? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau ? Ces choses que je dis n'existent-elles que dans les usages des hommes ? La loi ne les dit-elle pas aussi ? Car il est écrit dans la loi de Moïse : tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain. Dieu se met-il en peine des bœufs ? Ou parle-t-il uniquement à cause de nous ? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule le grain, fouler avec l'espérance d'y avoir part. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels ? Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir ? Mais nous n'avons pas usé de ce droit, au contraire. Nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel ?
Voilà.
Verset 14. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile.
Donc alors, en introduction, donc juste pour vous rappeler, on avait vu la dernière fois que les chapitres 8, 9 et 10, Paul va répondre à des questions qui lui avaient été posées. On avait vu ça avec, Benjamin au chapitre 7, en ce qui concerne les choses au sujet desquelles vous m'avez écrite. Et donc Paul, il continue à répondre là aux questions qui lui ont été posées. Et là, ça traite des pratiques dans l'Église. Donc on a vu la dernière fois là, le problème qui était soulevé sur la viande sacrifiée aux idoles, et on en a tiré un peu des concepts, on va dire, intemporels qui ont traversé les âges, et des questions aussi qui se posent à nous actuellement. Et dans ce chapitre-là, Paul va parler, du mariage, hein, du mariage des serviteurs de Dieu. On va le voir là au début. Et puis, il va rappeler que le Seigneur a ordonné que ceux qui vivent, que ceux qui annoncent l'Évangile doivent vivre de l'Évangile. Mais en tout cas, ça, c'est quelque chose qui leur donne aux églises. Parce qu'on va voir la responsabilité de l'église et après, on va voir la responsabilité du... Alors, on peut appeler ça pasteur, missionnaire, serviteur. Donc, il y a une responsabilité pour l'église et il y a la responsabilité du pasteur, serviteur, missionnaire. Et donc, Paul, lui, on va voir qu'il n'usait pas ce droit au niveau des Corinthiens de vivre de l'Évangile et de percevoir de leur part un salaire. Mais déjà au verset 1 et 2, toujours dans mon introduction, hein, Paul, voilà, parce qu'il y a de la contestation, il y a des influences dans l'Église, et donc pour lui, même si au début de Corinthiens, on l'avait vu, vous vous souvenez, c'était Georges qui avait parlé de ça, il était très humble, Paul, et il disait au reste, frères, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ. Il était très très humble. Mais il est obligé d'asseoir là son autorité apostolique et de rappeler que c'est le Seigneur qui s'est révélé à lui, qu'il a vu le Seigneur, c'était une des conditions pour être apôtre. Lui, on se rappelle, sur le chemin de Damas, il a vu cette grande lumière venant du ciel et il a dit « Qui es-tu, Seigneur ?» et la lumière lui a répondu « Je suis Jésus que tu persécutes ». On sait que après Paul dira en Galates au chapitre 1, versets 11 et 12, il dit que l'évangile qu'il prêche, il ne l'a pas reçu d'un homme, mais c'est une révélation qu'il a eue de Jésus-Christ, directement. On sait qu'il a été ravi en extase au troisième ciel, hein, il a été dans le paradis où il a vu et entendu des choses qui, ineffables et glorieuses, nous dit la parole, qui n'est même pas permis à un homme d'exprimer. Et lui, il a reçu directement les enseignements de la part du Seigneur. Donc il a toute autorité pour prêcher ce qu'il va et enseigner ce qu'il va dire ensuite. Et donc, le fait qu'il ait reçu directement cela de Dieu, il y a un caractère absolu dans son enseignement. Pour lui, ce qu'il va dire après, ce sont des vérités absolues. Et donc, on va traiter là le premier point. Alors, je ne savais pas comment tourner ce premier point, le titre là. J'ai écrit, je crois, dans le point aussi, « Il est préférable que les pasteurs se marient ». Que les pasteurs, les serviteurs de Dieu se marient. Alors ça peut paraître un peu contradictoire, parce que Benjamin avait traité le chapitre 7, où on voyait l'excellence aussi du célibat pour servir le Seigneur. Donc les deux choses ne sont pas incompatibles, mais ce qu'on va voir là, c'est que, en tout cas, quelqu'un qui est en charge d'une église, quelqu'un qui est en responsabilité dans une église, Paul, il était plus, lui, voilà, missionnaire. Il allait, il implantait des églises, il repartait. Mais il semblerait que quand même ceux qui doivent diriger l'Église, on va le voir après là, tout à l'heure dans 1 Timothée 3, c'était quand même mieux qu'ils aient qu'ils soient mariés, qu'ils aient des enfants, même si ce n'est pas disqualificatif, si le mot est exact, disqualifiant pour exercer le ministère. Donc il est préférable que les pasteurs se marient, on voit ça au verset 3 à 5, mais... En fait, on ne peut pas parler de 1 Corinthiens, là, et surtout de ces chapitres-là, sans parler du gnosticisme. Alors, Paul parle de la gnose en 1 Corinthiens, chapitre 1 et verset 5. Je vais vous le lire, 1 Corinthiens 1, 5. Un exemple hein, parmi d'autres, « Car en lui, dit Paul, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. » La connaissance ou la science, c'est littéralement en grec, c'est « gnosis ». Donc, ça c'est le fait de connaître Dieu, d'avoir Dieu pour père. Ce serait triste, je pense, pour un enfant, ou même pour un père, que ses enfants ne veuillent pas le connaître. Ce serait une grande tristesse. Moi, je suis père, et que si ma fille me disait, elle reconnaîtrait que oui, elle a un père, mais elle ne veut pas le connaître. Ce serait une grande tristesse pour moi et un grand manque pour elle. C'est la différence entre le gnosis, le fait de connaître Dieu, d'avoir cette relation personnelle, affectueuse avec le Père, qui s'oppose à l'agnosia, le fait de ne pas connaître ce Dieu, de ne pas connaître ce Père. Savoir que, oui, Il est là, mais je ne le connais pas. Mais la gnose, ce n'est pas le gnosticisme. Il y a juste une petite différence, hein, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais le gnosticisme, c'était un courant de pensée qui émergeait, là, qui était assez influent lors des premiers siècles. Le gnosticisme, en fait, il fait la différence entre un dieu du bien et un dieu du mal. Donc entre la partie matérielle aussi et immatérielle de l'être humain, comme nous aussi, on croit en la partie matérielle de l'être humain et sa partie immatérielle. C'est pour ça qu'on dit qu'on est soit dichotomiste, parce qu'il y a le corps, et puis d'un autre côté l'âme et l'esprit, ou éventuellement trichotomiste, si on peut séparer l'âme et l'esprit. C'est ce que je pense plutôt pour cela, puisque Hébreux 4.12 dit que la parole de Dieu, elle est vivante, efficace, et qu'elle est suffisamment tranchante pour séparer corps et âme et esprit. Donc, voilà. Mais donc, dans la pensée chrétienne, dans la connaissance chrétienne de Dieu, eh bien, il y a cette harmonie entre le corps, l'âme et l'esprit. Rien n'est mauvais en soi. Dans le gnosticisme, le corps est mauvais. Le corps et la matière est mauvaise, et donc il va mourir, alors que l'âme, la partie immatérielle du corps, est plutôt bonne. Et donc c'est ce qu'on appelle une pensée dualiste. Et, excusez-moi de rentrer dans tous les détails, là, mais il faut le faire pour bien comprendre pourquoi Paul insiste là-dessus. Et donc découle de cette pensée dualiste, de cette conception, une tendance ascétique, ou au contraire, libertaire. Hein, donc, qui va conduire à deux types de comportements. Donc, l'idée, c'est de faire mourir le corps qui est mauvais. Donc, deux façons de le faire. C'est par l'ascétisme, donc soit par une ascèse négative qui va refuser au corps ses besoins. Donc, il faut mortifier le corps, il faut priver le corps. C'est l'ascétisme dans le sens où on l'entend. Et c'est ça qui, c'est aussi en rapport avec le texte de la semaine dernière, où on va eh bien, se fixer toutes sortes d'interdits. Ça, c'est une dérive ascétique négative. Et puis, il y a une ascèse aussi positive, qui consiste à tuer le corps, mais d'une autre façon. C'est par la privation aussi, mais la privation de toute limite. Donc d'un côté, il y a l'ascèse négative, où on prive le corps de tout, et de l'autre côté, l'ascèse positive, où on ne prive le corps de rien. C'est-à-dire que eh bien, c'est la débauche, l'ivrognerie, etc., etc., etc. C'est pour ça qu'on voit les deux cas chez les Corinthiens. En 1 Corinthiens 5, je ne sais plus qui avait donné l'étude là-dessus, mais Paul disait « On rencontre chez vous une débauche telle qu'on ne la rencontre même pas chez les païens. » Et puis en 1 Corinthiens 6, il va parler de la prostitution, il dit « Prendrais-je ?» Il va parler de l'immoralité sexuelle, de la débauche. Et aux chrétiens, parce qu'ils étaient dans cette dérive d'ascétisme négatif, et d'autres dans cette dérive d'ascétisme positif. Ils disent « Prendrais-je le corps de Christ, vos propres corps, pour en faire les membres d'une prostituée ?» Et c'était le cas, juste pour le côté historique, avant que l'Empire romain ne prenne la suite de l'Empire grec. Il y avait à Corinthe cette colline là qui s'appelle l'Acro-Corinthe, et avant la forteresse là, romaine, il y avait un temple, je ne sais pas si vous savez, le temple d'Aphrodite, où certains historiens, notamment un dont le nom m'échappe, mais il disait qu'il pouvait y avoir jusqu'à 1000 prostituées dans le temple, des prostituées sacrées. Donc en fait, culturellement, chez les Corinthiens, il y avait cette facilité à aller voir les prostituées, et cela s'infiltrait aussi dans l'Église. Et donc on voit ici au verset 4 et 5 cette dérive de l'ascétisme négatif. Les chrétiens là, ils voulaient que Paul se prive de tout. Et Paul, des fois, on n'a pas le droit de manger et de boire. Et il dit, n'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur ? Et Céphas, c'est Pierre, bien sûr. Donc il voulait même empêcher Pierre de se marier. Voilà, l'abstinence aussi de toute relation conjugale. Et donc, Paul ici, il va prendre l'exemple de Pierre, hein, au verset 5. Et Paul dit, est-ce que nous, on n'a pas le droit de se marier comme font tous les autres apôtres? C'est la norme. C'est la norme. Les serviteurs de Dieu se marient. Et notamment Pierre. Alors nous savons déjà par l'évangile de Matthieu, en Matthieu chapitre 8, verset 14, que Pierre, on savait déjà qu'il était marié. Parce qu'il avait écrit que Jésus avait guéri la belle-mère de Pierre. Et Pierre était considéré comme par certains Corinthiens comme le chef de parti. Certains disaient « Je suis de Paul, je suis de Pierre, je suis d'Apollos. » Souvent quand on me demande quelle est la différence entre les... Je parle à des gens, ou des gens viennent me parler, en sachant que je suis pasteur, ils me demandent « Alors, ben, dis-moi juste cette question qui est souvent posée. Alors, c'est quoi la différence entre les catholiques et les protestants ?» Il y a plein de différences. Alors, une des différences, c'est celle-là. C'est que les serviteurs de Dieu, les pasteurs, se marient. Et donc, c'est un désaccord que nous avons avec l'Église catholique. C'est pas pour ça qu'on est méprisant envers les catholiques. Mais en tout cas, c'est une des raisons pour lesquelles je ne suis pas catholique. Et voilà. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, j'ai fait quelques recherches, c'est pour ça que je vous parle là dans le plan de la réforme grégorienne du XIe siècle. C'est-à-dire qu'au départ, comme la Bible l'enseigne là, les serviteurs de Dieu se mariaient. Ils étaient mariés. D'ailleurs, dans l'Église catholique, on appelle les évêques et les prêtres, on les appelle aussi les pasteurs. Ce sont les bergers, à la différence des laïcs. Mais au départ, les pasteurs se mariaient. Et donc j'ai regardé, là c'est seulement au XIe siècle, hein, il y a ce qu'on appelle dans l'Église catholique la réforme grégorienne, ça tient son nom du pape Grégoire VII, qui a eu pour vocation de mettre de l'ordre dans le clergé. Hein, il voulait hiérarchiser justement entre évêques, prêtres et puis les laïcs. Et puis il voulait imposer davantage de rigueur auprès des prêtres mariés, qui, je cite, hein, vous pourrez, si vous faites quelques recherches, retrouver cela, c'est quand même une des motivations pour l'interdiction du mariage des prêtres et des évêques. Donc ils voulaient mettre de l'ordre, et donc les prêtres mariés avaient profité, je cite, de leur famille pour s'enrichir en offrant une rente à leurs descendants. Donc il y avait l'argent de l'Église, là, qui était en fait en train de se dilapider dans la descendance des prêtres et des évêques. Et donc l'interdiction du mariage pour les prêtres va être affirmée par Grégoire VII en 1074. Donc on voit que l'interdiction du mariage et cette dérive ascétique qui a toujours cours aujourd'hui, eh bien elle est arrivée, il n'était pas ainsi au commencement de l'Église. Alors, on va voir les affirmations de la parole de Dieu, justement, qui plaident dans le sens d'une possibilité et même fortement recommandé de se marier pour les serviteurs de Dieu. Donc, de toute façon, cette pression-là ascétique, elle ne perturbait pas trop Paul, puisque Paul, on l'avait vu dans 1 Corinthiens 7, lui, il disait que il avait un don pour le célibat. Il a dit, c'est vrai que le célibat, c'est formidable, parce qu'on est à 100% disponible pour servir Dieu, alors que celui qui est marié, il s'occupe de plaire à sa femme s'occupe de plaire à son mari. Et Paul, dans ce sens, il dit, j'aurais voulu que tous les hommes soient comme moi, mais chacun tient de Dieu un don bien particulier, l'un d'une manière et l'autre d'une autre. Et donc Paul, il avait ce don pour le célibat, donc il était pas, ça ne perturbait pas trop ça, mais par contre, eh bien, il veut obéir à Dieu, il veut obéir à son Seigneur, à la parole de Dieu, et il va devoir lutter contre ces fausses doctrines, contre ces... Bon, je ne vais pas utiliser des mots trop forts, mais regardez, prenez avec moi 1 Timothée 4, 3. 1 Timothée 4, versets 1 à 3. Est-ce que quelqu'un veut nous lire bien fort 1 Timothée 4, versets 1 à 3? Donc, tout ça pour vous dire que si Paul lutte contre cela et dénonce cela, nous devons aussi lutter contre cela et dénoncer cela. Alors bien sûr, avec sagesse, avec amour, mais toujours, moi quand je discute avec des amis catholiques, je leur dis la vérité. Je ne leur épargne pas la vérité. Dans l'amour, dans le respect, sans mépris, mais je leur dis la vérité. Est-ce que quelqu'un veut lire 1 Timothée 4, versets 1 à 3?
Or, l'Esprit dit expressément qu'au dernier temps, quelques-uns apostasieront de la foi, s'attachant à des esprits séducteurs et à des enseignements de démons, disant des mensonges par hypocrisie, ayant leur propre conscience cautérisée, de se marier, prescrivant de s'abstenir des viandes que Dieu a créées pour être prises avec action de grâce par les fidèles et par ceux qui connaissent la vérité. C'est la version Darby que j'ai vue.
Très bien. Alors je vais la lire dans la version seconde. Ça ne change pas grand-chose, mais...
Peut-être le verset 3, il était un peu...
Oui, voilà, c'est ça, le verset 3, il était un petit peu...
Après, il y a écrit au verset 3, en second 78, « Ils prescrivent de ne pas se marier
voilà.
et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce.
Voilà. » C'est ça, c'était ce verset 3 particulièrement. Mais même si avant, vous voyez la source de cet enseignement qui n'est pas Dieu, en fait. Cet enseignement d'interdire le mariage, hein, il prescrit de ne pas se marier, ça ne vient pas de Dieu. Ça, il faut le dire clairement. Et donc, Paul lutte contre ces fausses pensées. Alors, il prescrit de ne pas se marier, juste je le dis en passant, ça peut aussi être pris dans un autre sens. Mais dans plein d'églises, on prêche contre la débauche, contre l'immoralité sexuelle. Et si cet enseignement-là, il n'est pas maintenu, si on ne prêche pas cela dans l'église, eh bien ça veut dire que dans un sens, là aussi, on prescrit aux gens de ne pas se marier. Prescrivent de ne pas se marier. Parce qu'on est laxiste là-dessus, on dira, ah, on ne va pas dire aux jeunes de ne pas coucher ensemble avant le mariage. C'est ringard, ils vont jamais nous écouter, on va faire fuir les gens de l'église. Donc si on réagit comme cela, eh bien quelque part, par notre silence, on va prescrire aux gens, c'est bon, vous n'avez pas besoin de vous marier. Et donc voilà, c'était juste une petite réflexion au passage. 1 Corinthiens 7, 2, on va pas les lire, on va avancer dans le message. Enfin si, je vais vous les citer. 1 Corinthiens 7, 2, donc Paul dit, « Toutefois, pour éviter l'impudicité, c'est tout ce qui se fait en dehors du mariage, que chacun, toute immoralité sexuelle, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. » C'est-à-dire que Paul dit que si jamais on interdit le mariage, il va y avoir des scandales sexuels, il va y avoir de l'immoralité. Et malheureusement, c'est exactement ce qui se passe. 1 Corinthiens 11, 1, Paul dit « Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. » Et puis, on va lire ensemble, là je vous invite à aller le chercher, 1 Timothée 3, versets 1 à 5. C'est pour ça que je vous disais au départ, quand même pour quelqu'un qui est en charge d'une église, qui est en responsabilité dans une église locale, pas quelqu'un qui est forcément missionnaire comme Paul, qui va, qui vient, mais pour quelqu'un qui est en charge dans une église locale, même si ce n'est pas disqualifiant de ne pas être marié, je pense quand même qu'il est recommandé, à cause de ce texte-là, d'être marié. Donc nous lisons, et pareil, hein, quand je parle à mes amis catholiques, je cite ce texte, je dis, mais quand même, c'est écrit noir sur blanc. Cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, donc épiscopos dans le grec, donc surveillant de l'assemblée, il désire une œuvre excellente, il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, et ils disent même mari d'une seule, quoi, pas plus, hein, c'est au contraire, ça plaît vraiment dans le sens qu'il doit être marié. Mais c'est vraiment plutôt le contraire de l'ascétisme négatif. Sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement, il faut qu'il ne soit adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté, car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu ? Donc voilà la première chose que l'on voyait dans ce texte. il est recommandé, voilà, ou en tout cas il est proscrit d'oser interdire aux serviteurs de Dieu de se marier. C'est quelque chose qui est complètement contraire à la parole de Dieu. On va voir deuxièmement la responsabilité de l'Église, là. Donc on a vu au verset 1 à 3, Paul, il a reçu des accusations. Hein. Certains lui reprochaient de prêcher pour s'enrichir. Je vais reprendre mon texte. Hein, donc, n'avons-nous pas le droit de manger et de boire? Apparemment, les Corinthiens ne voulaient pas seulement que Paul fasse vœu de chasteté et de célibat, mais apparemment, ils voulaient aussi qu'il fasse vœu de pauvreté. Au verset 6, Paul fait mention de Barnabas, qu'il avait accompagné lors de son premier voyage missionnaire. Et en fait, tous deux, ils pourvoyaient eux-mêmes à leur subsistance dans leur service pour le Seigneur, à la différence des autres apôtres. Alors la question que Paul leur pose ici, c'est est-ce qu'il serait obligatoire pour les serviteurs de Christ de travailler pour pouvoir servir le Seigneur et soutenir leur ministère? Est-ce qu'il n'aurait pas possible d'abandonner leur travail, hein, leur métier, pour pouvoir servir le Seigneur à temps plein? Je vais sans doute parler de nous, parce que nous, depuis le début de notre service pour le Seigneur, on avait décidé, parce qu'on avait analysé la situation, qu'en fait, on allait travailler avec mon épouse pour subvenir à notre ministère. Mais ça c'est ça la responsabilité des serviteurs de Dieu. Et là, on voit la responsabilité de l'Église. Et Paul, il va adresser là une liste d'arguments, hein, très simplement, on n'a même pas besoin de les détailler, parce que ce sont déjà des illustrations en elles-mêmes. Il va adresser une liste d'arguments qui va soulever la responsabilité de l'Église pour affirmer que tout serviteur de Dieu a le droit de vivre de l'Évangile, d'être soutenu par son Église locale pour son ministère. Oui, voilà où je voulais en venir, j'ai perdu le fil, mais... C'est vrai que on a toujours travaillé, on a toujours été quand même assez occupé, et j'ai toujours concédé quand même que quelqu'un qui est dans le ministère à plein temps, il va pouvoir peut-être faire mieux, peut-être faire plus, parce qu'il va avoir tout son temps consacré à étudier la parole, étudier, voilà, vous imaginez qu'il y a déjà la vie de famille, le travail, tout ça. Là, pour travailler ce message, là, j'ai passé des heures et des heures et des heures à réfléchir, à prier, et puis après à vérifier les informations. Et c'est vrai que quelqu'un qui est à temps plein, par définition, il va être d'autant plus efficace. Et donc Paul va dresser une liste d'arguments, tout simplement très, très rationnels, pour dire que... L'Église locale, en tout cas, elle a cette responsabilité de faire preuve de libéralité, de générosité pour soutenir ceux qui la nourrissent spirituellement. Alors, versets 7 et 8, hein, là, on le voit dans les usages des hommes. Donc, il va donner quelques exemples. Qui est jamais engagé dans une armée à ses propres frais ? Pas besoin d'expliquer, hein. On va à l'armée, c'est pas en plus à nous de payer. Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ces choses que je dis n'existent-elles que dans les usages des hommes? Voilà, là, il donne des illustrations qui sont simplement tirées de l'observation de ce qui se passe dans la vie. Et donc, si c'est vrai dans la vie, eh bien, ça l'est d'autant plus dans l'Église. Versets 8 et 9, il va là donner aussi une illustration qui est dans la loi mosaïque. Verset 9, car fin du verset 8, la loi ne les dit-elle pas aussi? car il est écrit dans la loi de Moïse, « Tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain. » Alors Dieu se met-il en peine des bœufs? Il n'était pas en train de parler des bœufs, en fait, dans cette illustration. Il parlait, en fait, des serviteurs de Dieu. Ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule le grain, fouler avec l'espérance d'y avoir part. Et puis, versets 11 à 14, là, on voit une illustration qui est tirée de ce qui se passait dans le temple de Dieu, sous l'ancienne alliance. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Alors, je ne sais pas de qui il parle, honnêtement, il y a deux possibilités. Soit les Corinthiens savaient qu'il fallait soutenir les ministères, les ministres de Dieu, et qu'ils faisaient des offrandes pour soutenir d'autres serviteurs de Dieu qui étaient peut-être passés. Et donc, ils disent, d'autres jouissent de cela avec vous, et pourquoi pas nous? Ou bien alors, si d'autres jouissent de ce droit, c'est-à-dire de moissonner vos biens temporels, peut-être qu'ils parlaient aussi de César, hein, qui devait rendre l'impôt, donner leur participation pour la vie de la société. Alors, à combien plus forte raison des serviteurs de Dieu? Mais nous n'avons pas usé de ce droit, au contraire, nous souffrons tout, enfin, on va y revenir après, et donc là on est au verset 13 pour parler des deux exemples dans le temple. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel. Donc là, il donne deux exemples. Il y avait les Lévites qui s'employaient aux choses sacrées. Ils se nourrissaient de la dîme que le peuple d'Israël apportait au sanctuaire. Ça, on voit ça dans Nombre, au chapitre 18, et au verset 24. Et puis, les sacrificateurs qui, eux, servaient à l'autel, et il leur revenait certaines parties des sacrifices lévitiques. Donc en fait, que ce soit dans les usages des hommes, que ce soit sous la loi mosaïque, dans ce qui se passait dans le temple sous l'ancienne alliance, mais le temple aujourd'hui, on le sait, le temple de Dieu, eh bien c'est le rassemblement du peuple de Dieu, c'est l'église locale, c'est nous aussi bien sûr individuellement, mais le temple de Dieu aujourd'hui c'est son église, et donc l'église a la responsabilité, et elle doit vraiment considérer ça devant le Seigneur, de soutenir, en tout cas d'avoir la capacité et d'être toujours prêt à soutenir ses serviteurs qui l'enseignent spirituellement. Et donc l'ordre du verset 13 s'adresse principalement à l'Église, puisqu'on va voir que sinon Paul désobéirait à cet ordre. Verset 13, « De même, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. » Et ça, c'est un ordre que l'Église doit premièrement prendre en considération. Paul, lui, il n'a pas fait usage de ce droit parce que certains disaient qu'il prêchait pour s'enrichir, il voulait piquer l'argent de l'Église. Et donc, c'est dans le livre des Actes, vous connaissez bien, en acte 18, quand Paul arrive à Corinthe, il a écrit qu'il habite il va habiter chez Ananias et Saphira, parce qu'il faisait le même métier qu'eux, et il fabriquait des tentes. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit Ananias et Saphira. Priscille et Aquilas, pardon. Merci. Des fois, j'ai la langue qui fourche comme ça. Merci de me reprendre. Hein. Priscille et Aquilas. Et donc Paul, il avait analysé le terrain, il avait décelé la faiblesse des Corinthiens, et il a refusé. Il s'est dit non, je vais pas prendre leur argent. Je veux pas que ça fasse obstacle à l'Évangile, que ça vienne perturber ma prédication, mon enseignement. Donc je préfère pas prendre leur argent. Alors que dans Philippiens, on voit qu'il avait accepté la libéralité des Philippiens. Et là, il a dit non. On voit maintenant troisièmement, la responsabilité du missionnaire, du pasteur, du serviteur de Dieu. la personne qui a été vraiment appelée à Dieu pour l'enseignement, la prédication et la mission. Alors c'est les versets 15 à 23. On va les lire. Quelqu'un veut nous lire les versets 15 à 23 ?
Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits, et ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que je l'écris ainsi, car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense ? C'est d'offrir gratuitement l'Évangile que j'annonce, sans user de mon droit de prédicateur de l'Évangile. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs, avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne le sois moi-même sous la loi. Je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part.
On va s'arrêter là. On va garder le reste pour la conclusion. Ce passage-là, il est magnifique, il est extraordinaire. Si je m'attarde à le lire, là, ça va m'émouvoir. Ça va me mettre les larmes aux yeux. Quand je vois l'abnégation de Paul, son désir de servir coûte que coûte, quoi qu'il en soit. Il ne se laisse pas arrêter par les circonstances. Il veut servir le Seigneur. En fait, il y a un appel qui repose sur sa vie, et avec cet appel vient la responsabilité. Et en fait, il va foncer quoi qu'il en coûte, quoi qu'il en soit. Alors, je mets juste une petite parenthèse sur ce que je suis en train de dire. Quoi qu'il en coûte, quoi qu'il en soit, pas s'il en coûte votre vie de famille. On ne sacrifie pas sa famille, sa femme, ses enfants pour le ministère. Ça, c'est une absurdité sans nom. Et pourtant, je l'ai tellement vu. Des pasteurs, le ministère. Et puis, les enfants délaissés, l'épouse délaissée, et puis les couples qui éclatent. Et puis, des couples missionnaires comme ça, pastoraux, qui sont sur le grand chemin. Mon directeur d'études, il disait... Quand on est nombreux au départ pour se lancer dans la mission, on est nombreux au départ à l'Institut biblique, et quand on regarde 10 ans après, par rapport à tous ceux qui sont partis, il y en a plus de la moitié qui sont plus dans la course. Mais là, l'abnégation de Paul, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il en soit, il se dit pas « je servirai le Seigneur l'année prochaine quand je serai prêt ». Non, il sert le Seigneur. Il sert le Seigneur tout de suite. C'est pas l'année prochaine qu'on sert le Seigneur, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Là où on est, même si on veut se former, on n'est pas encore formé, on est en cours, mais on sert quand même le Seigneur. On sert le Seigneur dans son église locale, on témoigne autour de soi. C'est aujourd'hui le bon moment et le bon endroit. Paul, il s'adapte, le serviteur de Dieu, il s'adapte. Moi, donc, comme je vous l'avais dit, je me suis converti dans une église qui était méga charismatique. Alors j'ai fait le grand écart, moi, je suis passé de l'église méga charismatique chez les baptistes fondamentalistes indépendants, etc. Donc c'était des toutes petites assemblées, c'était tellement séparatiste que... je veux pas être méprisant non plus, ce sont mes frères, je les aime, ils m'ont quasiment tout appris. Et voilà. Mais en tout cas, tout ça, c'était des toutes petites églises. Donc avec mon épouse, nous on a analysé la situation. On voyait que... Alors c'était beaucoup des missionnaires américains dans ce milieu-là. Et on voyait qu'il y en avait beaucoup qui allaient chercher, donc qui se mariaient soit avec un missionnaire français, un futur pasteur français, qui se mariait avec une missionnaire américaine qui était là. Donc ils avaient une connexion avec les États-Unis, donc ils retournaient chercher du soutien aux États-Unis. Alors moi, marié avec une Hollande. irlandaise, immigrée en France, dans le Béarn et tout ça, et moins de connexion avec les États-Unis. Et en fait, nous, on a été assez lucides, on a observé, et on s'est dit, bon, il ne faut pas qu'on attende après un soutien, il faut qu'on prenne le taureau par les cornes, et on va travailler, on va faire comme Paul, on va être des faiseurs de tentes. Donc Paul, il était, comme on l'a vu, il était faiseur de tente. Hein, donc selon la façon dont vous voyez ça, soit ça veut dire qu'il travaillait dans le bâtiment à l'époque, ou soit qu'il était dans le tourisme. Bon, ben, nous, on a opté pour tourisme. Donc enfin, on a travaillé. Le Seigneur nous a donné, il a donné à tous des talents. Hein, je ne parle pas là des dons spirituels, mais des talents dans la vie pour pouvoir exercer telle ou telle profession, activité. Donc on l'a fait. Puis à un moment donné, effectivement, on a bâti une maison d'hôte avec des gîtes, etc. Mais on n'a pas attendu le bon vouloir des hommes, de leur générosité, de leur bonne volonté. On a avancé, on a couru, on a foncé. Même si il fallait travailler pour assurer le ministère, Dieu pourvoit pour un travail. Et on l'a vu, hein, nous on a vu vraiment, on peut dire, des miracles de Dieu dans notre vie. Comment il a pourvu de manière, mais extraordinaire. Il y avait un de mes élèves à l'Institut Biblique, qui s'appelle Vincent Bourrel, je ne sais pas si vous connaissez, ouais. Mm-hmm. M'avait dit, en fait, si tu ne te lèves pas, Dieu ne va pas t'outiller, parce que tu ne te lèves pas. Tu n'as pas besoin d'outils pour travailler, parce que tu ne vas pas travailler. À partir du moment où tu vas te lever, Dieu il va t'équiper. Mais il faut d'abord que tu te lèves, et après Dieu va t'équiper. Et on a vraiment vécu des choses extraordinaires avec mon épouse. Et en fait, je suis quelqu'un qui peut témoigner, parce que je l'ai vécu, que quand il dit, il y a des personnes qui ont quitté son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, sa maison, pour moi et pour mon royaume, ne reçoivent au centuple, dès à présent, et dans la vie éternelle. Et le Seigneur, il a multiplié... J'aurais voulu faire ma propre vie moi-même avant, j'aurais pas reçu autant que ce que j'ai reçu, et je suis pas en train de parler d'évangile de prospérité, hein, pas du tout, mais en tout cas c'est ce que j'ai expérimenté dans ma vie, c'est que quand on se lève pour le Seigneur, il nous équipe, il nous outille. Et voilà, c'est quand Paul il dit « je me suis fait tout à tous », alors on pourrait faire un long message sur « je me suis fait, avec les juifs, j'ai été comme juif, avec les grecs, j'étais comme grec, comme, avec ceux qui étaient sans la loi, comme sans la loi ». Mais c'est ce côté de s'adapter. Quand on est parti au Costa Rica, je vous épargne les détails, ça a été une période un peu... c'est quand même une période de transition, c'est difficile, et puis ils n'ont pas voulu imposer les mains avec précipitation, les anciens là-bas. Et donc je suis arrivé, moi la seule chose que je savais faire c'était prêcher la parole de Dieu. Et c'est quoi ton appel? Ben moi je prêche la parole de Dieu. Mais il fallait le temps, alors au début je servais pas. Alors ben, avec Johanna il y a une famille, parce que le Costa Rica c'est un pays émergent. Donc il y a une classe moyenne là, émergente qui commence à gagner de l'argent. Donc, et puis il y a des riches expatriés américains, canadiens, des Européens de l'Ouest, des Israéliens, pas mal de gens qui sont là-bas. Et donc des classes moyennes, des riches qui côtoient aussi quand même toujours beaucoup de pauvreté. Et il y a, en fait, le Costa Rica fait ce que nous, en France, on a fait dans les années 70, je crois, avec le Maghreb. On a fait venir une main-d'œuvre pas chère. Et eux, ils ont fait la même chose avec le Nicaragua juste au-dessus. Donc il y a, je crois qu'il y a 5 millions de costariciens et 1 million de nicaraguayens dans le pays. Il peut y avoir beaucoup, beaucoup de pauvreté. Et là où nous, on habite, il y a un quartier, ils appellent ça un barrio. C'est un bidonville. C'est des tôles. Ils dorment sur de la terre battue. Ça fait mal au cœur. Et donc il y a une famille de l'église. Elle a déménagé de chez elle. Elle a été s'installer dans le barrio. Et elle a ouvert un comedor, ça s'appelle, c'est une cantine, c'est pour nourrir les enfants, principalement issus de l'immigration nicaraguayenne, les enfants du barrio. Et tous les jours, elle est nourrie, je crois que c'est 5 jours sur 7 ou 6 jours sur 7 ? 5 jours sur 7, tous les midis, et elle leur prêche la parole de Dieu. Et donc, pourquoi je vous raconte tout ça? C'est que nous, en fait, on a été bouleversés par ce ministère. Et du coup, avec Johanna, on s'est engagé dans ce ministère. Parce que, en fait, je prêchais pas. Tout ce qui était même mon identité en France, j'étais pasteur, je prêchais tous les dimanches, je donnais des études bibliques toutes les semaines. Et tout ça, tout d'un coup, ça m'était enlevé. Et c'était un peu vertigineux. Mais j'ai pas attendu l'année prochaine pour servir le Seigneur. On sert tout de suite là où on est. Et donc, on s'est mis à servir dans ce ministère. Et c'était quelque chose de formidable. Et puis, il y avait quelques frères de l'église qui faisaient un stand biblique sur le grand marché de Tamarindo, des villes là-bas. Et donc, je me suis joint sur ce stand biblique. Et en fait, c'était formidable parce que je ressentais aucune frustration de ne plus être dans mon ministère pastoral, d'enseignement, ou là, comme j'ai déjà prêché une fois, là, ça fait partie des parties visibles dans l'église, hein, mais ce n'est pas les parties visibles qui sont les plus importantes. Et là, tout d'un coup, j'étais invisible, et j'étais vraiment dans le barrio, là, j'étais un peu un esclave, quoi. C'est-à-dire que Aïda, la sœur, je venais pour aider, donc Johanna a cuisiné, elle enseignait les enfants, moi je parlais pas espagnol, là je suis en train d'apprendre l'espagnol. Donc elle me disait, bah écoute, t'as qu'à couper l'herbe là, t'as qu'à couper les branches de cet arbre, enlève cet arbre là, mets-le là. Donc en fait je faisais l'esclave, mais en fait j'étais content parce que je le faisais pour le Seigneur. Et quand je lis ça de Paul, ça m'encourage à continuer comme ça. On sert le Seigneur aujourd'hui, c'est pas demain. Et quand on est rentré en France, là, on s'est rendu compte que Johanna était enceinte. Donc on s'est dit, comme c'était considéré comme une grossesse à risque, on s'est dit, on va pas partir au Costa Rica. Eh bien moi, je m'en fiche. J'attends pas quand je vais rentrer au Costa Rica pour servir le Seigneur. Ok, qu'est-ce qu'on fait? On va où? À Pau? Ok. Allô? Josias? Je sais pas si vous avez besoin d'aide, mais en tout cas, nous, on est là. On veut servir le Seigneur. Si vous avez besoin de nous, Benjamin, Georges, on est là. Donc, j'ai pas attendu qu'il m'appelle, qu'il me demande. Non, je me suis invité.
Comme moi.
Et voilà, en fait, on sert le Seigneur. Et moi, j'ai dit, Seigneur, tu conduis. S'ils n'ont pas besoin de moi, alléluia, je vais me reposer, je vais prendre des vacances, ça va être cool. Mais voilà, tout ça pour vous dire, on sert le Seigneur. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, et on n'attend pas. Et on termine maintenant la conclusion, c'est versets 24 à 27. J'appelle ça la récompense. Quelqu'un veut lire, versets 24 à 27?
Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres.
Voilà, ça c'est la récompense. Donc il y a cette exhortation-là, que ce soit pour l'Église, sur le fait de soutenir vos anciens. Peut-être, je ne connais même pas la situation ici des anciens. Peut-être, s'ils sont à la retraite, ils se disent, on a tout ce qu'il nous faut, donc on n'a pas besoin, donc utilisons l'argent de l'Église pour d'autres choses, pour d'autres ministères. Donc, ça, c'est tout à fait louable et il n'y a pas de problème. Mais voilà, l'Église aussi, elle traite durement son corps, elle fait des sacrifices, elle réfléchit à son budget, enfin l'Église, c'est-à-dire chacun d'entre nous, pour pouvoir faire preuve de libéralité aussi, j'en avais parlé, mais ne pas oublier de soutenir l'Église persécutée. Ou bien, donc ça c'est la responsabilité de l'Église, ou bien pour le serviteur sur son service, de traiter son corps durement, de le Seigneur avant tout. Quand on voit, en tout cas, je parle de moi, quand je vois le temps, et j'invite chacun d'entre vous à vous identifier à cela, quand on voit le temps et l'énergie qu'on est capable de passer pour assouvir une passion, qu'elle soit professionnelle, artistique, sportive, là il va faire une analogie avec le sport, mais pourquoi finalement? Pourquoi on est capable de passer tant de temps, tant d'heures, ça nous accapare le cerveau, l'esprit. Pourquoi pour une couronne? corruptible. Et combien nous ne devrions pas perdre de vue la couronne incorruptible de gloire que le Seigneur réserve à ceux qui ne se seront pas ménagés leur service pour Christ et pour le royaume du Père. Alors je vous l'ai déjà dit, j'ai parlé avec un frère sportif là dimanche dernier, il est venu me voir, il m'a dit tu fais quoi comme sport? C'est vrai que j'aime beaucoup le sport, je suis un peu accro au sport. Je vais en parler dimanche prochain sur l'idolâtrie. En ce qui me concerne, j'avais été un peu loin. Mais quand je vois les efforts, le temps, les sacrifices que je suis prêt à faire pour le sport, et qu'en est-il de mon service et de mon engagement pour le Seigneur, pour celui qui est mort pour moi, et en plus pour obtenir une couronne incorruptible de gloire. Le sportif, et là en l'occurrence il est question du sportif de compétition, hein, il ne parle pas du sportif de loisir qui va faire un petit footing comme ça pour s'entretenir, il parle de celui qui va vraiment faire des sacrifices, qui va se priver de nourriture pour être au bon poids, pour courir plus vite ou je ne sais quoi, ou pour la boxe. Des sacrifices incroyables de temps. Donc le sportif renonce lors de son entraînement à beaucoup de choses que d'autres peuvent se permettre pour une couronne corruptible. Mais combien les croyants, combien on devrait, nous, encore plus, nous engager pour remporter cette couronne incorruptible. Et Paul, lui, il contraste avec cette église, hein, qui, l'église là de Corinthe, elle ne voulait pas reconnaître la réalité de sa responsabilité. Mais Paul, lui, il vit une abnégation totale pour persévérer sans relâche dans le ministère auquel il a été appelé. Et c'est ce qu'il dit, hein, pour terminer avec le verset 27, là, quand il dit « de peur d'être désapprouvé après avoir prêché aux autres ». Ce qu'il veut dire ici, ce qu'il présente ici, c'est l'impossibilité de séparer l'appel de Dieu. Quand Dieu nous a appelés à son service, il y a une impossibilité de séparer cet appel avec notre responsabilité. Avec l'appel vient la responsabilité. Et celui qui déclare être sauvé par ce merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, par ce Père d'amour qui a envoyé son Fils unique, eh bien, il est responsable et nous sommes responsables de vivre en conséquence. Amen. Voilà, ben on va s'arrêter là. 54. Peut-être vous avez, avant de prier, comme la dernière fois, si vous voulez rebondir, ajouter quelque chose.
Non, j'ai encore un texte qui m'est venu là, peut-être pour un peu confirmer ce que tu dis, c'est ce que dit Paul à Timothée dans le chapitre 4, il dit comme ça, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, désormais la couronne de justice m'est réservée, le Seigneur le juste juge me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Donc, ayons le même désir de pouvoir annoncer l'évangile dans l'humilité comme Paul a pu le faire.
Et jusqu'au bout, hein. Je crois que le texte que tu viens de lire, apparemment, c'est les dernières paroles de l'apôtre Paul. Ouais.
Il avait peur de pécher, de ne pas assumer sa responsabilité devant les Christ. Oui. Et alors, il avait peur de ne pas succomber aux responsabilités. Parce qu'avoir un appel de Dieu, c'est très important, mais il faut assumer un papier et une responsabilité derrière. Et ce n'est pas pour tout le monde, parce qu'aujourd'hui ils assument et demain matin, d'autres choses, comme vous disiez tout à l'heure, vos collègues d'études bibliques. Moi j'ai fait un peu de théologie et j'ai vu les personnes qui étaient avec moi, et aujourd'hui elles sont tous dans le monde. C'est un peu compliqué de maintenir le chemin. C'est pour ça que l'Église, c'est très très important dans la vie du chrétien, dans la communauté, tout le monde ensemble. Un, il supporte l'autre frère, un parle avec l'autre. C'est très important cette communion, parce que venir à l'Église, on est là, oui, on écoute la parole, mais qu'on n'a pas le soutien de l'Église pour avancer, soit les jeunes, soit les couples, soit les enfants, on va pas arriver à faire notre chemin avec responsabilité et principe. Il faut s'entraider, voilà. Après, Dieu nous dit qu'il faut aimer notre proche. C'est difficile d'aimer le proche. On ne va pas aimer tout le monde, ce n'est pas possible. Mais on doit les aimer. On doit les accueillir et les aider. Et moi, je suis jeune, très jeune dans la foi, à côté de vous, vous êtes des anciens. Mais moi, je vois la vie chrétienne avec beaucoup de responsabilités. Et je ne sais pas comment vous voyez.
Si, tout à fait, beaucoup de responsabilités, ça implique aussi le fait de beaucoup responsabiliser.
Oui.
Et donc, c'est aussi la vocation de vos anciens, c'est de discerner aussi les dons spirituels et de déléguer pour que chacun puisse servir dans les ministères qui leur sont impartis. Et comme je parlais tout à l'heure des ministères visibles, voilà, ce sont ceux que l'on voit en général le dimanche, mais qui ne sont pas forcément les plus importants, comme je l'avais plaidé la dernière fois. Il y a tous ceux qui travaillent pour les enfants, tous ceux qui s'occupent, voilà, ceux qui sont en charge, les responsables des groupes d'ados, des jeunes adultes, parce que c'est eux qui vont insuffler justement le souffle et le zèle pour ces générations-là, pour qu'elles puissent après prendre le relais. Et c'est vrai que dans l'église locale, on est là pour veiller les uns sur les autres, s'encourager les uns les autres, se sanctifier aussi mutuellement.
Voilà.
Et donc, voilà, c'est pour ça que c'est très important la vie de l'église locale. Quelqu'un d'autre voulait ajouter quelque chose?
Je voulais juste aussi désolé, j'ai pas de voix. Au verset 27, il dit: je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être jugé, d'être moi-même rejeté après l'avoir prêché. Ils sont aussi aux responsables de l'église, ce que j'ai compris. Être aussi l'exemple pour nous qui sommes jeunes dans la foi, parce que s'ils prêchent que nous, en dehors de l'église ou ailleurs, ils font le contraire de ce qu'ils nous disent, là, quand l'apôtre Paul dit, ben, moi, je traite durement mon corps, c'est-à-dire je fais attention aussi à être obéissant à la parole que je donne moi-même, afin que demain je ne sois pas disqualifié. Je crois dans un verset que dit d'ailleurs, ne pas être disqualifié demain. Aussi, on regarde les anciens aussi.
Ça va la pression? On la tient bien, les anciens?
Les anciens sont bien. Ça va?
On est en train de devenir de plus en plus petits.
Non, mais.
Il parle largement, mais il dit: je traite durement mon corps, ne pas disqualifier.
Il y a écrit que celui qui est debout prenne garde de tomber. Donc, d'autant plus Paul, qui était apparemment célibataire, c'est aussi ça, traiter durement son corps. C'est de lutter aussi contre la tentation, contre les comme disait notre frère, il nous dit ça la dernière fois, la vie chrétienne, en fait, c'est tout le temps, c'est une vie d'équilibre. Et donc, Dieu a donné la sexualité dans le mariage pour en profiter. Voilà, il dit: c'est mon cadeau, allez-y, profitez-en dans le cadre du mariage. Mais ça veut dire, pas d'ascétisme, on voit où est-ce que ça peut en venir, que chacun, homme et sa femme, et que chaque femme et son mari, ceci afin d'éviter l'impudicité, mais pas non plus de débauche. Donc il faut traiter aussi durement son corps pour lutter contre la tentation. Si vous avez, moi je suis persuadé, je ne suis pas le seul à le dire, que la débauche et la fornication, c'est un fléau dans l'église de Dieu. Ça affaiblit l'église de Christ. Et il faut en parler, même si, comme disait un frère qui a donné son témoignage il n'y a pas longtemps, il ne faut pas accabler le frère qui est tombé dans cet esclavage, et il faut l'accompagner, l'aider, mais il faut traiter durement son corps, c'est-à-dire que si on est fragile avec la pornographie, il faut mettre des verrous sur son téléphone, sur son ordinateur, il faut impliquer son conjoint si c'est nécessaire, ou sa conjointe dans l'affaire, dans le processus, mais il faut prendre des mesures, il ne faut pas attendre que ça nous tombe dessus, quoi. Maintenant, Dieu délivre aussi de manière tout à fait spectaculaire de certains esclavages.
Il faut être en conformité avec ce qu'on dit.
Voilà,
tout simplement.
Après, c'est pas évident le célibat.
Faites ce que je fais.
C'est pas évident le célibat.
Faites pas ce que je dis.
Et c'est ce que dit Pierre, et il dit, c'est ce que Jésus reproche aux pharisiens, voilà. De ne pas être en conformité avec ce qu'il disait. Il disait, il lit des fardeaux pesants sur les épaules des hommes, et ils ne sont pas capables d'en remuer le petit doigt. Ils sont beaux à l'extérieur, mais à l'intérieur, ils sont des sépulcres blanchis. Et Pierre dira, ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et ils glorifient Dieu au jour où il les visitera. Donc les gens nous regardent et il faut être cohérent.
Oui.
D'ailleurs, on dit souvent que notre meilleure prédication, c'est la vie que l'on mène. Hein.
Oui.
Est-ce que quelqu'un voudrait prier ? Alors la dernière fois j'avais dit deux personnes. On va faire encore deux personnes. Deux personnes qui voudraient prier pour conclure. Et donc prier aussi pour l'église locale et pour
les anciens.
Les anciens.
Garder toutes ces paroles à nous, que ta parole est la lumière, nous éclaire au quotidien, Seigneur. Que ta parole, Seigneur, soit notre épée au quotidien, afin de repousser toutes ces tentations qui nous arrivent de chaque côté, Seigneur. Ce soir, nous sommes bénis parce que tu as encore, Seigneur, tu as encore, Seigneur, passé par ton serviteur et tu nous as encore fortifié, tu nous as encore, Seigneur, édifié. Et nous te disons merci. Merci aussi pour ton Église, Seigneur, que tu bâtis, que tu consolides jour après jour, Seigneur. Et nous te confions aussi tous tes serviteurs, Seigneur, qui œuvrent pour ton œuvre, Seigneur. Fortifie-les, encourage-les, Seigneur, équipe-les au quotidien, Seigneur.
Amen.
Fais qu'ils puissent, Seigneur, mener à bien cette mission, comme dit l'apôtre Paul, qu'ils puissent courir vers le but que tu as, les appelés pour le Seigneur. Que cette couronne, tu puisses la leur donner. Merci de ramener tout un chacun de nous ce soir. Merci aussi, Seigneur, nous avons une pensée pour tous ceux qui n'ont pas pu venir ce soir. Et Seigneur, tu les localises, Seigneur, et que tu puisses aussi, à travers nos prières, Seigneur, reconforcer dans leur malheur, Seigneur. À travers nos prières aussi, Seigneur, poser ta main sur tous ceux qui sont malades, Seigneur, comme notre frère, Seigneur, Jean, Seigneur, qui est encore à sa convalescence, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, donner la force, Seigneur, qu'il puisse être parmi nous assez rapidement. Merci pour tout ce que tu viens pour nous, merci pour la gloire de ton nom, Seigneur, merci pour ton amour envers nous, Seigneur, au quotidien, Seigneur. Nous ne le méritons pas, mais Seigneur, c'est pas uniquement par grâce, Seigneur, que nous osons même prononcer ton nom au quotidien. Nous te disons merci. Que ton Saint-Nom puisse t'en prier. Amen.
Amen. Amen.